Déjà sur scène que ça signale que ça
c'est bien si on veut. Si tu veux. Se lève, courant. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans ce lieu de culte à vous qui êtes présentes, aussi aux personnes qui nous regardent depuis chez eux, bienvenue aussi à vous, bienvenue aussi aux personnes qui sont ici pour la première fois ou qui sont de passage. Une cordiale bienvenue toute particulière à Manon qui nous rejoint pour ce temps de culte et c'est cool de l'avoir, elle revient d'un congé du Tchad, donc elle va nous livrer quelques expériences. Son témoignage et merci d'avance. Merci aussi à Thomas Salamoni. Donc il y a eu un échange de chair avec notre pasteur Philippe, avec l'église évangélique de Gland. Alors sois aussi la bienvenue parmi nous. Et je vous propose que nous commencions ce culte pour honorer notre Dieu et pour lui remettre ce temps en famille, ici à Mérin, mais aussi à Gland et puis dans le monde entier. Donc remettons ce culte à notre Père. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons demander ta présence ici à Mérin, mais aussi, Seigneur, chez les personnes qui reçoivent ta parole, aussi chez eux, aussi à Gland, aussi dans toutes les églises qui aujourd'hui t'honorent. Nous voulons t'offrir un culte qui te glorifie, Seigneur, nous voulons entendre ta parole. Alors, Seigneur Jésus, merci pour ce temps où nous pouvons être ensemble dans cette famille, et Seigneur, la famille de Jésus-Christ. Et je crois que, Seigneur, c'est un élément qui est tellement important de se dire, ben, nous nous aimons les uns les autres dans cette famille. Alors Seigneur Jésus, sois présent parmi nous, avec ton Esprit Saint aussi, Seigneur, nous voulons t'entendre et nous voulons être encouragés par toi. Et nous voulons, Seigneur, te glorifier. Alors Seigneur, sois présent parmi nous aujourd'hui. Amen. Alors je vais sans autre demander à Manon de me rejoindre. Et merci aussi aux enfants d'être présents, alors il n'y en a pas beaucoup. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent se rapprocher un petit peu ? Non. Bon ben, bienvenue aux enfants. Et puis, Manon, je te laisse la parole.
Merci. Bonjour. Ça va?
Oui.
Moi aussi. J'ai prévu un petit temps de présentation de ce que je fais au Tchad. Je ne sais pas si on peut afficher. Voilà. Alors moi, ici, c'est Manon, mais là-bas, c'est Manou, plutôt, parce que les 11, ça ne se dit pas trop. Alors, je suis à N'Djamena, c'est au Tchad, avec la mission AMIPE, et le ministère là-bas s'appelle Reflet d'Espérance. On peut aller à la suivante. Ça fait un an et demi que je suis là-bas. Sinon, je le connais par cœur, c'est bon. J'avais des cartes du Tchad. Il y en a qui savent où ça se trouve, le Tchad ? Dans quel continent ? Est-ce que vous savez, les enfants ?
Oui.
C'est où ?
En Afrique.
En Afrique, trop bien. Et tu sais où en Afrique ? Parce que l'Afrique, c'est grand, non ? C'est presque au milieu. Vous allez voir la carte. C'est le pays qui est en vert au milieu de l'Afrique. Et puis dans le Tchad, je suis au milieu. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit point jaune qui est juste à la frontière de là où c'est vert. C'est N'Djamena, tu vois ? C'est la capitale. Et si tu vois, au nord, c'est le désert, et puis au sud, c'est un peu plus vert, mais c'est pas vert comme ici. Donc moi, là où je suis, il y a du sable au sol, sur les murs, et parfois même dans le ciel. On peut aller à la suivante. Et eux, là, c'est ceux dont, avec qui je travaille. C'est tout plein d'enfants. Je dis enfants parce qu'ils sont dans mon cœur, mais ils sont plutôt jeunes. Ils ont entre 8 et 22 ans. C'est des enfants, des filles, des garçons. Je m'occupe à peu près d'une centaine d'enfants avec toute mon équipe, dans plusieurs quartiers, avec plusieurs activités. Et puis, on les suit et on essaye de les réinsérer dans une famille, dans un travail, à l'école, parce que tout ça, ils n'ont pas. Et là, vous voyez plein d'images. On fait du foot avec eux, on fait l'école. Ouais, ils aiment trop le foot. T'aimes le foot aussi ?
Oui.
Ah ah ! Là-bas, c'est des champions. Des fois, je joue avec eux, mais ils se moquent bien de moi, malheureusement. Je fais tout ce que je peux, mais... Il y a l'école, ça, ils aiment un peu moins. Mais après, il y a aussi des soins. On fait des lessives, on leur apprend à se doucher parce qu'ils ne savent pas forcément faire ça. On lit la Bible avec eux, on leur raconte des histoires, on prie avec eux. On fait plein de choses. Et quand Claude m'a dit « Est-ce que tu veux dire quelque chose ?» Le thème du jour, c'est « Conseiller ». Sur les conseillers. Et ça m'a beaucoup parlé. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, un conseiller, c'est une personne, quand on a un problème, on va le voir, ou quand on a une question. Et vous, là, quand vous avez une question, vous vous tournez vers qui ? Ou un gros problème, ou un petit problème ? Si tu rentres de l'école et puis qu'il y a un truc que tu n'as pas compris en classe, tu vas voir qui ? Ta maîtresse, ouais, ça peut être une bonne conseillère. Ou quand il y a un problème avec un copain, puis tu sais pas comment faire, tu vas où ?
On va voir nos parents.
Ah, papa, maman, c'est des bons conseillers, ça c'est vrai. Il y a autre chose ?
Je sais pas.
Tu sais pas. Mais en fait, c'est la réponse que je voulais, donc ça me va très bien. Moi aussi, quand j'ai des problèmes ou quand j'ai des questions, je vais voir mon papa, ma maman, je les appelle. Et en fait, on peut aller à la suivante. Quand je m'adresse aux enfants, j'oublie le reste. Mon ministère au Tchad, le travail que je fais, c'est comme d'être une maman. Je donne des conseils, j'essaye de donner de bons conseils et de l'amour. Parce que ces jeunes que vous voyez, eh ben, leurs parents, ils ne les veulent plus à la maison, suite à des divorces. Ou alors il y a la violence tellement à la maison qu'ils préfèrent vivre dehors, tout seuls, ou avec d'autres. Ou alors leurs parents sont décédés. Et alors, quand ils sont dehors dans la rue, tout seuls, ben, ils manquent de conseils, ils manquent d'amour, ils manquent d'un cadre, de parents.
Ben, ils dorment où ?
Ils dorment dans la rue. Dans la nuit, par terre. Sur des cartons ou des bouts de nattes. Et du coup, eh ben, quand on est tout seul dans la rue et qu'on n'a pas de bons conseils, on trouve souvent des mauvaises choses à faire. Pour pouvoir manger, on va voler. Ou pour pouvoir oublier, on prend de la drogue ou de l'alcool. Et puis, ça pousse à la violence. Et puis, un manque d'hygiène. Je peux vous dire que les douches, là-bas, c'est pas très intéressant. Et puis, se doucher en pleine rue, tout nu, là-bas, ça se fait pas. Ici non plus, d'ailleurs. Quoique, certains endroits. Donc ça, c'est mon ministère. Je travaille avec eux comme une maman d'adoption, avec une vingtaine de personnes. On leur donne de l'amour, de l'écoute. On est patient avec eux, comme les parents sont patients des fois avec vous. Et puis, on passe du temps avec eux, on prie pour eux. Mais le problème, c'est qu'on peut leur donner des conseils. Là, je m'adresse aux parents, mais on ne peut pas les obliger à écouter les conseils. Et puis, des fois, on donne des conseils, mais ce n'est pas forcément les bons, on ne sait pas trop. Alors, on peut aller à la suivante. Un jour, plutôt une nuit, en plein milieu de la nuit, il y a 10 enfants qui viennent toquer à ma porte. C'est pas toquer, c'est défoncer ma porte plutôt. Manou, Manou, il y a un de nos copains, il est à l'hôpital. Il est entre la vie et la mort, il est tombé comme ça. Faut que tu fasses quelque chose, va à l'hôpital. Et en fait, au Tchad, la nuit, tu sors pas dehors. Parce que c'est très dangereux. Et moi, j'ai pas de voiture. Donc aller à pied ou à vélo, c'est encore plus dangereux. Donc là, j'ai cette information d'un jeune dont je m'occupe, qui est à l'hôpital. Et je peux rien faire pour lui, je suis bloquée à la maison. Alors moi, j'ai su quoi faire tout de suite. Bah, j'ai bien pleuré. Et puis, ça avance vachement, le truc. Ça ne change rien. Alors, je me posais la question à Dieu. Mais tu fais quoi? T'attends quoi, là? Pourquoi? T'es d'accord de laisser ces jeunes, là, dans la rue, vivre des choses horribles? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'attends? Pourquoi tu ne retrouves pas une famille? Pourquoi tu les laisses dormir tout seuls, dans la nuit, par terre? Et vraiment, ça m'a énervée. J'étais vraiment énervée contre Dieu. Ça, c'est pas un bon conseil. Et j'ai ouvert ma Bible. Et c'est le psaume 27 qui est venu. Et dans ce psaume, déjà, le titre, c'est « En sécurité auprès de Dieu ». Dieu est partout, donc on peut être en sécurité partout. Et ça, déjà, rien que le titre, j'ai un peu arrêté de pleurer. Et puis plus tard, un peu plus loin, il dit qu'il nous cache sous sa tente quand il y a le malheur qui arrive. Mais le verset qui m'a parlé le plus, c'est celui-là. « Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. » Donc en fait, lui là, ça ne l'intéresse pas du tout que les enfants soient dehors. Ce n'est pas une place pour eux. Il les a créés avec un papa et une maman pour avoir des conseils, pour avoir de l'amour. Mais si, pour plein de raisons, ils n'en ont pas, mais lui, il prend carrément la responsabilité de ses enfants. Et même quand il y a les parents... Quand il y a un certain mauvais conseil, lui, il est là pour donner de bons. Ou quand on ne sait pas la réponse, nous, les adultes, ben, il nous aide à trouver la bonne réponse. Et moi, mon ministère, c'est de travailler avec Dieu, justement, pour recueillir ses enfants. Et puis le verset juste après. « Enseigne-moi la voie que tu veux suivre, ô Éternel, conduis-moi par le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. » Ça veut dire que n'importe qui dans la salle, vous les enfants, vous pouvez demander à vos parents, vous pouvez demander à vos maîtresses, mais vous pouvez aussi demander à Dieu de vous aider, de vous conseiller. Quand vous avez un problème, lui, il a la solution. Vous le savez, ça? Ah, ça, c'est bon. Vous avez le meilleur conseiller, alors. On peut aller à la suivante. Je vais quand même vous dire que cet enfant, le lendemain matin, je l'ai retrouvé dans la rue, le sourire aux lèvres, le pain dans la bouche, comme si de rien n'était. Donc, c'était pour m'apprendre que moi aussi, je dois apprendre à me laisser conseiller. Et que j'ai pas réponse à tout, comme la plupart d'entre nous. Donc j'aimerais finir ce moment. Alors, pas forcément par prier tout de suite, mais j'aimerais vous partager le sujet de prière. Parce que moi, je prie beaucoup pour mes enfants. C'est les miens maintenant, je suis maman de 100 enfants. Mais toute mon équipe, on prie pour lui et j'aimerais vous inclure dans la prière pour ces jeunes. Donc, pour que ces jeunes, ils se laissent conseiller par le meilleur des conseillers. Et puis, que Dieu les libère de leur chaîne. Parce que vraiment, la rue, même si eux savent que ce n'est pas bien pour eux, ils sont attachés, tu peux... C'est vraiment difficile sans lui, c'est pas possible. Et ça, c'est valable pour nous, tous dans la salle. On doit se laisser conseiller. Je vais vous demander de prier aussi pour nous, l'équipe sur place, pour un renouvellement du corps, de l'âme et de l'esprit, parce que c'est fatigant. Et puis, vu qu'on peut pas forcer les enfants à nous écouter, il faut aussi qu'on accepte qu'ils fassent leurs choix, et des mauvais choix. Et qu'on devienne nous-mêmes des bons parents d'adoption. Et je sais pas si on peut dire ça, j'ai signé pour une année en plus, donc je reste encore jusqu'à mars prochain. Je retourne en juin, donc j'ai besoin de prières pour devenir une bonne mère. Et puis pour la suite aussi, j'ai besoin d'être conseillée sur ce que je vais faire après. Est-ce que je reste? Pour combien de temps? Est-ce que je rentre? Qu'est-ce que je fais? Pouf! Voilà. Merci de m'avoir écoutée.
Je vous propose quand même qu'on prie pour Manon et pour son équipe. Alors si quelques personnes dans la salle veulent m'accompagner, alors ça sera volontiers. Oui Seigneur Jésus, merci pour ce témoignage, merci pour Manon, merci pour cette maman de substitution qui aime et qui rencontre ses enfants. Et Seigneur, nous voulons que tu la renouvelles, Seigneur, que tu lui donnes de la ressource. Seigneur, qu'elle puisse vivre son quotidien avec ta présence ressourçante, Seigneur, vivifiante. Seigneur, qu'elle ne se lasse pas, qu'elle ne se fatigue pas, mais qu'elle puisse être à tes côtés et toi à ses côtés. Alors Seigneur Jésus, nous voulons te la remettre et que tu prennes soin de Manon, que tu la protèges. Et Seigneur, que tu sois près d'elle, Seigneur, qu'elle puisse sentir ta présence dans ce ministère, Seigneur, tellement important auprès des enfants. Amen.
Mais Seigneur, donne à Manon cette intelligence renouvelée pour qu'elle sache conseiller dans chaque situation, que tu la remplisses de ton esprit tout au long de cette nouvelle année, que tu l'accompagnes dans ce ministère qui est certainement très difficile. Merci pour ton aide, merci parce que tu promets de lui donner tout le nécessaire. Amen.
Amen.
Merci pour le courage que tu nous as donné déjà pendant ce temps et tu vas continuer à le faire. Tu dis, va avec la force que je te donne. Merci pour Manon, merci pour le courage qu'elle a eu et qu'elle va continuer à avoir. Parce que tu n'abandonnes pas ses enfants de la rue, mais tu n'abandonnes pas elle non plus et son équipe. Nous voulons les bénir tous dans le nom de Jésus.
Merci Seigneur aussi pour la joie que tu lui donnes. Elle émane cette joie parce que ça vient de toi, Seigneur. Et je sais au Seigneur qu'elle te sert avec fidélité. Alors, Seigneur, accompagne-la dans toutes les difficultés qu'elle trouve, Seigneur. Et nous te la remettons, Seigneur, et nous avons confiance en toi, que tu n'abandonnes jamais personne. Nous te louons et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen.
Seigneur, c'est beau de l'avoir remplie de ton amour. Et Seigneur, qu'elle puisse transmettre cet amour à chacun de ses enfants, Seigneur. Et qu'elle soit encouragée, bénie. Et nous te la présentons au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Que tous ceux qui l'écoutent, et qui écoutent aussi l'équipe qui est avec elle, puissent suivre ses conseils, Seigneur. Qu'ils soient conduits par ton Saint-Esprit. Remplis-les tous, ouvre leur cœur au nom de Jésus.
Je remets tous les enfants dans cette salle, Seigneur, pour qu'ils puissent suivre les conseils de leurs parents, mais qu'ils puissent déjà, avec un âge, en étant jeune, Seigneur, suivre les conseils de notre Dieu. Qu'ils puissent se tourner vers toi tout de suite dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen.
Amen. Amen. Merci, maman. Alors, je crois que ce qui est important aussi, c'est que Dieu est grand. Et comme elle a dit Manon, il emplit toute la terre. Et je crois que ce premier chant, je vous propose de commencer cette louange par ce premier chant, Majesté. Et que nous puissions chanter de tout notre cœur. Alors merci à l'équipe musicale. Et je vous propose... aussi, c'est que cette majesté, nous pouvons la chanter, tous les peuples peuvent la chanter. Et je crois que c'est pour ça que cette grande famille chrétienne de Jésus-Christ, on n'est pas non seulement dans notre petit coin seulement mérinois, mais on est vraiment dans le monde entier. Et je crois que ce chant, vous tous les peuples, résume bien que nous sommes cette grande famille, nous sommes l'épouse du Christ en tant qu'Église, en tant que croyant en Jésus-Christ. Alors je vous propose ce deuxième chant, et après nous prierons pour les enfants pour l'école du dimanche.
Thank you.
prie pour les enfants et après les enfants, vous pouvez rejoindre l'école du dimanche. Oui, Seigneur, j'aimerais te remettre les enfants, aussi les moniteurs. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui nous rejoint, tu es ce Dieu qui nous aime, tu es ce Dieu qui est bienveillant et qui accueille chacun d'entre nous, que nous soyons des adultes ou bien des enfants. Alors, Seigneur Jésus, j'aimerais te remettre ces enfants, Seigneur, que tu puisses leur parler et aussi les encourager. Et Seigneur, aussi les moniteurs, Seigneur, qu'ils puissent avoir du plaisir aussi dans l'école du dimanche. Et Seigneur, que tu les renouvelles. Alors, merci aussi pour leur service. Merci aussi pour cette joie qu'ils transmettent aux enfants. Alors, Seigneur, nous voulons te les remettre en ton nom, au beau nom de Jésus-Christ. Amen. Je propose encore ce chant qui dit « Ta parole » et je crois que c'est aussi pour entendre ce que va nous dire aussi Thomas. Donc c'est vraiment que l'Esprit Saint nous ouvre notre esprit, nous ouvre aussi notre cœur de façon que nous puissions entendre au travers de Thomas, nous puissions entendre Jésus-Christ. Donc je vous propose ce chant « Ta parole ». Oui, Seigneur, j'aimerais te remettre Thomas. Merci, Seigneur, d'avoir inspiré les paroles qu'il va nous transmettre. Donc, Seigneur Jésus, merci pour sa présence parmi nous. Merci aussi pour Philippe qui est à Gland. Et Seigneur, nous voulons te remettre aussi entre tes mains. Et Seigneur, que nous puissions entendre, que notre cœur soit ouvert par ton Esprit Saint. Alors, Seigneur, merci pour ce temps de prédication, de lecture de ta parole. Amen.
Amen.
Amen. Sois béni.
Merci. Voilà, bonjour à chacun, chacune, ça fait plaisir. Il y a bien des visages que je connais, certains depuis très 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 longtemps, on n'ose presque plus compter les années, mais c'est un privilège que d'être là. Et puis nous avons le privilège d'avoir Philippe chez nous à Gland. Je vous transmets les salutations de cette église, l'Arc-en-Ciel à Gland. C'est toujours aussi un plaisir de pouvoir bénéficier des ministères des uns et des autres. Et comme j'aime dire dans ces occasions, je crois que nous avons la meilleure part à Gland. Bien choisir ses conseillers et celui ou ceux qu'on sert, c'est un titre peut-être un peu pompeux que j'ai donné. Alors, désolé Manon, ça ne sera pas tout à fait avec un accent sur les conseillers, mais vous verrez que, oui, ça va quand même aussi parler de cela. Par contre, j'ai choisi de vous proposer un message interactif, ce qui veut dire que c'est vous qui allez faire la plus grande partie du message. Et c'est très agréable pour moi, parce que si ça ne marche pas à la fin, ce n'est pas de ma faute. Hein. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je vais poser quelques questions tout à l'heure, et puis plus vous prendrez votre place, plus la parole va faire son chemin. Parce qu'effectivement, le texte, vous verrez, est un texte qu'il vaut la peine de bien bien écouter et d'essayer de voir, mais qu'est-ce qui se passe là comme dynamique ? Voilà, j'espère que les choses sont bien posées. En même temps, je ne mets pas la pression, hein, si vous n'avez rien à dire, ce n'est pas un problème. J'aurai quand même deux, trois choses à dire, si jamais. Mais voilà, mais sachez que plus vous crochez au texte, et vous n'êtes peut-être pas d'accord, vous trouvez, voilà, mieux ce sera, je pense. Le texte que je vais vous partager se trouve dans le livre des Rois, et j'aimerais juste placer brièvement le contexte. Nous sommes environ à 930 avant Jésus-Christ. Salomon, le grand roi, qui, sous le règne duquel il y a eu un rayonnement assez incroyable à l'époque, va bientôt mourir après une fin de règne peu glorieuse, malheureusement. Il s'est tourné, pour des raisons très très charnelles, vers l'idolâtrie, et Dieu lui a annoncé une punition qui va tomber sur son fils en l'occurrence. Le fils, il va goûter aux mauvais fruits que le père a déjà commencé à goûter. Et puis le royaume sera arraché de la main du fils de Salomon. Il ne gardera plus qu'une seule tribu en Israël, alors celle où il y a Jérusalem, Juda, mais quand même. Un prophète a annoncé à Jéroboam, qui est un serviteur de Salomon, qu'il recevra 10 des tribus d'Israël, donc que lui, il va, alors qu'il est serviteur de ce grand roi, que lui, il va recevoir une bonne partie de ce royaume. Et il n'y aura plus qu'une seule tribu qui restera au fils de Salomon, qui s'appelle Roboam. C'est un peu compliqué là, à ce moment-là, il y a un serviteur qui s'appelle Jéroboam, et puis il sera question de Roboam, qui est le fils de Salomon, il ne faudra pas les confondre. Salomon, qui avant de cela, de cette promesse apparemment à Jéroboam, essaye alors de faire mourir ce serviteur, et ce serviteur, il s'enfuit en Égypte, où il se trouve en exil. Et c'est là que nous entrons en jeu avec cette partie de 1 roi du chapitre 11, la fin du chapitre 11, à partir du verset 41 jusqu'au chapitre 12, et le verset 17. Et je vous invite à être particulièrement attentif à ce qui se passe comme dynamique dans ce texte. Je vais vous le lire et puis vous pourrez suivre aussi au fur et à mesure là-dessus. D'ailleurs, voilà, il y a le résumé de ce que je viens de vous dire, mais on peut aller vers le texte. Prêt ? Ok. Le reste de l'histoire de Salomon, tout ce qu'il a fait, sa sagesse, cela est écrit dans le livre de l'histoire de Salomon. Le temps du règne de Salomon à Jérusalem sur tout Israël fut de 40 ans. Salomon se coucha avec ses pères et fut enseveli dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, devint roi à sa place. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour l'investir de la royauté. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, l'apprit, il était encore en Égypte, où il s'était enfui pour échapper au roi Salomon. Jéroboam habitait en Égypte. On le fit appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël arrivèrent et dirent à Roboam: ton père a rendu notre joug bien dur. Toi maintenant, allège le dur esclavage que ton père nous a imposé et le joug pesant qu'il a mis sur nous et nous te servirons. » Il leur dit, « Allez et revenez me voir dans 3 jours. » Le peuple s'en alla. Le roi Roboam prit conseil des anciens qui s'étaient tenus au service de Salomon son père pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Ils lui dirent, « Si aujourd'hui tu te fais le serviteur de ce peuple, si tu te mets à leur service, si tu leur réponds bien, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam ne tint pas compte du conseil que lui donnaient les anciens. Il prit conseil des jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui se tenaient à son service. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage ? Allège le joug que ton père a mis sur nous. » Les jeunes gens qui avaient grandi avec lui dirent, « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, toi, allège-le nous. » Tu leur parleras ainsi, « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Mon père vous a imposé un joug pesant, moi, j'alourdirai encore votre joug. Mon père vous a corrigé avec des fouets, moi, je vous corrigerai avec des scorpions. » Jéroboam et tout le peuple se présentèrent à Roboam le 3e jour. Suivant ce qu'avait dit le roi, revenez me voir dans 3 jours. Le roi répondit avec dureté au peuple. Il ne tint pas compte du conseil que lui avaient donné les anciens, et il leur parla ainsi, d'après le conseil des jeunes gens, « Mon père a rendu votre joug pesant, moi j'alourdirai encore votre joug. Mon père vous a corrigé avec des fouets, moi je vous corrigerai avec des scorpions. » Le roi n'écouta pas le peuple. La tournure prise par les événements venait du Seigneur pour réaliser la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Aïa de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple fit répondre au roi, « Quelle part avons-nous avec David ? Nous n'avons pas de patrimoine avec le fils de Jessé. À tes tentes, Israël. Maintenant, regarde ta maison, David. » Et Israël s'en alla à ses tentes. Quant aux Israélites qui habitaient dans les villes de Juda, Roboam régna sur eux. C'est ce qui prépare cette séparation entre Juda et Israël. On peut mettre juste cette image qui va suivre. On peut mettre juste l'image. Merci. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de voir ensemble un petit peu, de réfléchir un petit peu à ce qui se passe et pourquoi cela se passe. Alors, d'abord, qu'apprenons-nous dans cette histoire de Salomon, le roi sur lequel Israël avait atteint le point culminant de son rayonnement ? C'est la première question à laquelle je vais proposer, on peut l'afficher, à laquelle je vous propose de répondre moi-même, et après on lancera un peu l'échange plus concret. C'est vrai que Salomon, vous vous souvenez probablement, même Jésus se réfère à lui comme le grand roi, somptueux, magnifique, un règne. Ouais, vraiment, c'était un peu l'apogée du règne d'Israël. Et puis en même temps, on se rend bien compte là que Salomon, finalement, en tout cas vers la fin de son règne, il n'a pas été très doux avec son peuple. Fait toute cette richesse qui a afflué dans son pays, toutes les constructions magnifiques. Alors, à un moment donné, c'est précisé que c'était surtout les anciens habitants d'Israël qui étaient vraiment soumis à de lourdes corvées. Mais finalement, là, on entend quand même que Salomon, il a été aussi un roi qui a exploité le peuple, en tout cas jusqu'à un certain point. Et là, je trouve que déjà, son règne se termine mal, pire qui puisse arriver, hein, quelqu'un qui tombe dans l'idolâtrie, mais en plus, il n'a pas été très, très sympa avec le peuple d'Israël, en fait, ce peuple dont il était roi. Donc, je trouve intéressant, ça ne sort pas forcément des textes précédents, mais là, visiblement, à cause de ce que dit le peuple, ça ternit un petit peu sa belle réputation. Voilà, à vous maintenant. Que pensez-vous du conseil des anciens que Roboam consulte? Quels étaient leurs objectifs et leurs motivations? Que pensez-vous? Donc, Roboam va consulter les anciens du pays.
Il y a un dicton qui dit « Vox populi, vox dei », ce qui veut dire la voix de peuple vaut ou vient de la voix de Dieu. Et je pense qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Et puis on voit bien que les vieux sont plus sages que les jeunes. Excusez-nous. Excusez les jeunes pour ce que je dis en tant que vieux. C'est probablement notre seul privilège d'ailleurs. Et donc, sans aucun doute, Roboam aurait dû écouter les conseils des sages.
Est-ce que c'est l'avis des jeunes ?
Moi, je pense qu'il n'aurait pas nécessairement besoin de consulter le conseil. Enfin, ils ont donné des bons conseils, le conseil. Mais je pense que ce qui était intéressant, c'était d'abord d'écouter le peuple, et qu'effectivement, le conseil avait l'air d'être en lien avec le peuple, et donc leur objectif et leur motivation, c'était de donner des conseils appropriés, puis c'était plus en lien avec le peuple que Roboam, en tout cas.
On pourrait dire un peu, avec l'idée, la voix du peuple, la voix de Dieu. Ici, le conseil était un peu comme porte-parole, finalement, du peuple. Et puis, ce qu'il cherchait, en particulier, le conseil, c'était aussi un peu son rôle. C'était le bien du peuple. On dirait aujourd'hui le bien commun du plus grand nombre. Oui, peut-être encore une proposition.
Le premier conseil des anciens, il m'a fait penser, en fait... il est... effectivement plus proche de l'enseignement de Dieu, des Écritures, parce que Dieu qui est proche, effectivement, et de son peuple, et à l'écoute aussi de ses enfants. Oui. Là où le conseil des jeunes, effectivement, il est moins proche déjà de cet enseignement, et c'est aussi moins démocratique, quoi. Ça me fait penser un peu, justement, à la démocratie, ouais, le premier.
Très intéressant ce que vous dites. J'oserais dire, c'est pour ça que je pose la question de la motivation, je ne ferai pas trop vite la séparation, vous voyez, les vieux, les sages, et puis les jeunes, les fougueux qui vont faire tout casser, disons. Je veillerai un petit peu à ne pas trop vite aller dans ce sens, mais il y a certainement quelque chose là, on va y arriver aussi. Mais c'est vrai que on voit en tout cas que le conseil prend son rôle. Et puis justement, le conseil est en lien avec le peuple. Et le peuple ose dire, c'est aussi intéressant là, qu'ils osent quand même remettre en question la manière dont le grand Salomon a régné. Et puis les anciens, c'est intéressant, les anciens sont d'accord. Hein, ils répercutent ce que pense le peuple. Ce qui veut aussi dire qu'ils n'ont peut-être pas tout à fait leur boulot avant. Hein, si on veut être un peu concret, si Salomon il a exploité le peuple, vous mettez un petit « e » si vous voulez, ça veut dire que les anciens, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils sont venus une fois le challenger, comme on dirait aujourd'hui, le remettre en question? On ne sait pas. Hein. Mais juste aussi pour se garder un petit peu de trop vite être dans le noir et blanc. Enfin, voilà. On va continuer. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu s'exprimer. Peut-être que ce sera pour la prochaine question. Prochaine question. Pourquoi le roi Roboam ne tient-il pas compte du conseil des anciens et s'adresse-t-il aux jeunes? Pourquoi le roi Roboam ne tient-il pas compte du conseil des anciens et s'adresse-t-il aux jeunes?
Je crois simplement que c'est parce que c'est le plan de Dieu qu'il ne l'écoute pas. La parole nous le dit clairement.
Alors, on va y arriver à cela, je suis d'accord. C'est vrai qu'on peut lire ce texte que la volonté de Dieu devait s'accomplir. Voilà, donc ça c'est clair, je suis d'accord, hein. C'est le narrateur qui nous le dit d'ailleurs, c'est lui qui nous dit bah, tout cela finalement. Moi je dirais peut-être ultimement, c'était la volonté de Dieu qui s'accomplissait. Maintenant, est-ce que ça dédouane tous ceux qui là-dedans ont bugué, on pourrait dire humainement parlant, parce que je veux bien qu'il y a une volonté de Dieu qui vraiment va s'accomplir, moi je suis d'accord. Après, est-ce que ça veut dire que toutes les responsabilités qu'il y a là finalement étaient nulles parce que c'est Dieu derrière. Enfin, voilà. Sylvain.
Oui, mais je me dis que Roboam, dans la même lignée que Salomon sur la fin de sa vie, il y a cette espèce de rêve de grandeur qui va avec l'exploitation du peuple. Et je me dis aussi pour nous... quand on admire des monuments anciens, quand on pense aux pyramides d'Égypte, voilà, on voit la grandeur de ces monuments, on oublie peut-être que c'est l'esclavage qui les a produits aussi. Voilà, c'est toute une question sur le rapport entre les rêves de grandeur et le peuple.
Moi, j'y vois aussi un certain orgueil. Parce que les conseils, c'est pas juste d'écouter le peuple, c'est de devenir le serviteur du peuple. Et ça, c'est pas forcément facile quand on est roi ou qu'on a du pouvoir. Alors que ce que les jeunes, ses amis, peut-être aussi pour garder un certain... les jeunes hommes avec qui il avait grandi, donc c'est aussi peut-être pour gagner un certain... un environnement amical, d'être d'accord avec ceux qui les entourent et d'avoir le pouvoir en plus, c'est... c'est un peu le combo, quoi.
C'est difficile quand on a un père qui a déjà tout fait, tout accompli, qui a été, enfin voilà, qui dans tout avait tout ce qu'il voulait. Comment on peut faire encore mieux, hein? Il faut en tout cas s'assurer qu'on ait les moyens pour faire mieux. Enfin, je ne sais pas de quoi il rêvait, Roboam, je ne sais rien. C'est, mais c'est vrai que comment garder bien le pouvoir pour pouvoir encore peut-être dépasser le père, je ne sais pas. Enfin, voilà, c'est un petit peu la question des ambitions, de l'ambition, qu'est-ce qu'on recherche. Et puis quand vous avez vécu dans la surabondance, j'imagine bien que c'était son cas, ben, quand c'est à vous, bon, maintenant je peux... pas seulement à dépenser X, maintenant je peux encore dépenser plus, ou je ne sais pas. Ouais. Paul Robert.
On parle d'ambition. Est-ce qu'on n'est pas dans le « je veux tout et tout de suite » Les jeunes ont grandi avec Jéroboam, ce sont ses copains, ses amis. Est-ce qu'en soutenant ce roi, en l'encourageant à faire ça, il ne se positionne pas aussi vis-à-vis de lui, admettons que ça ait marché dans ce sens-là, pour avoir des postes à responsabilité tout de suite, pour remplacer ces vieux qu'on met à la poubelle. Enfin, j'ai vu ça quelque temps sur une affiche. Voilà. Tout de suite, ce n'est pas que d'aujourd'hui, c'est maintenant. Quant à Jéroboam, est-ce qu'il a une idée? On ne sait pas. Lui, il fait que suivre les conseils. On ne sait pas ce qu'il pense vraiment. Roboam.
Oui, tout à fait. Alors ça conduit déjà à la prochaine question. Que pensez-vous du conseil des jeunes, gens qui avaient grandi avec le roi et qui se tenaient à son service? Quels étaient leurs objectifs et leurs motivations? Est-ce qu'on pourrait peut-être entendre pour cette question un peu des jeunes? Donc, comprenez bien, c'est pas vous les jeunes, vous avez rien compris, les vieux, c'est surtout les sages. Hein, c'est pas, on n'est pas, non, on va pas vers ce clivage. Mais disons, Paul Robert nous a déjà un petit peu mis en piste. Qu'est-ce que vous pensez?
Bonjour. Moi, je pense que ces jeunes, ils sont en décalage dans tous les cas avec la société. Enfin, je dis, on parle d'une très petite minorité de jeunes. C'est marqué. Enfin, ils ont grandi avec le roi, et donc dans tous les cas, ils sont. Ils sont dans une classe de la société qui implique qu'ils n'ont pas conscience des enjeux pour le reste du peuple. Et leur objectif et leur motivation, c'était de garder. Justement, à mon avis, ils avaient déjà une certaine quantité de pouvoir, et leur objectif, c'était de garder ce pouvoir.
Absolument, oui. Pourquoi ?
Ben, c'est toujours délicat de prendre des conseils auprès des gens, parce que si vous ne les suivez pas, après il vous tourne le dos. Ça. Mais c'est étonnant qu'il n'y ait aucune qualification sur ses conseillers à part leur âge. Parce qu'en fait, on trouve des sages et des gens passage à toutes les générations. Donc,
oui.
Et oui. Je me demande si Salomon a vraiment briefé son fils ou s'il a un petit peu délaissé aussi.
Oui, oui. Ça, effectivement, le texte ne le dit pas. Et si on pense à Salomon, que David a quand même, il l'a coaché dans la, comment on dit, la réelle politique. Hein, c'était pas très sanctifié, mais bon, voilà. Comment on peut se poser la question. Le texte ne nous dit rien, mais est-ce que Salomon finalement, est-ce qu'il a eu le temps de briefer son fils avec tout le luxe, avec toutes les femmes, etc. Peut-être pas. Hein, on ne sait pas. Enfin, c'est un peu sarcastique, mais voilà, on va entendre encore.
Oui, ouais. Moi je pense que juste deux idées. La première, c'est que, puisque à la fin de la phrase, c'est dit que les jeunes se tenaient déjà à son service. Donc peut-être qu'ils connaissent très bien leur ami et avaient envie d'aller dans le sens de la pensée de leur ami afin de pouvoir conserver certains avantages. Je pense souvent à certains gouvernements, vous voyez, qui ont des conseillers qui sont bien lettrés, qui sont des grands intellectuels, mais qui n'ont pas souvent le courage de dire la vérité aux dirigeants, tout simplement parce qu'ils veulent conserver les avantages qu'ils ont. La deuxième idée, c'est que il a voulu peut-être prendre parti pour une partie de la population, c'est-à-dire aller dans le sens de la pensée des jeunes. Donc, montrer qu'il y a cette rupture, cette fracture par rapport aux jeunes et aux personnes les plus âgées, même s'il est convaincu qu'effectivement... Et toute dernière idée, c'est qu'il a grandi avec son père. On n'est malheureusement pas en position de comprendre ce que son père pensait de ses sages. Peut-être qu'il a grandi en voyant son père ne pas suivre les conseils des sages, et donc il a voulu aller dans le même sens et pouvoir rester aussi 40 ans au pouvoir, je ne sais pas. Voilà.
Merci beaucoup. Oui, je pense que d'une certaine manière, ce texte est d'une terrible actualité, parce que suivant où, on voit comment les choses se passent, je veux dire, on le voit de près. Dans certains pays, quand on est au pouvoir, on veut s'assurer qu'on maintienne ce pouvoir, etc. Et il y a aussi quand même, c'est tout à fait sorti, ce côté de la clique, du groupe. Le fils du président qui va avoir le pouvoir, moi je vais essayer d'y être pour avoir tel poste ministre, etc. Surtout si on s'entend bien, on fait bien la fête ensemble, c'est cool ça. Après c'est nous qui serons au pouvoir du pays. Après nous on va s'épanouir et puis on va veiller à ce que nos familles, en tout cas notre clan, aillent bien. C'est assez logique, non ? On va faire ça. Dans une église, on va voir que les aînés soient bien soignés dans l'église. Et puis bon, en même temps, il faut quand même que les jeunes, c'est l'avenir de l'église, donc il faut aussi quand même les soigner. Hein. Et puis tous ceux entre deux qui... c'est le gros de l'église, on va essayer aussi de tenir compte d'eux. C'est important, c'est bien. Bon, là, je fais un petit peu un transfert facile, mais je trouve très intéressant que finalement ces choses pourraient nous arriver. Ça peut même m'arriver dans mon travail, ça peut arriver, je ne sais pas où, ces questions d'intérêt. Peut-être avant d'aborder encore un petit peu cette question, d'arriver un petit peu au cœur de ce qui a déjà été, ce vers quoi ça a déjà été pointé avant, juste encore une question. Sans ignorer le fait que notre frère a signalé tout à l'heure, sans ignorer le fait que la tournure des événements venait du Seigneur, et oui, le texte le dit, donc tenons-en compte, mais sans oublier cela, comment pensez-vous que les choses auraient pu se passer différemment ? Un monsieur là ?
Bon, c'est un texte difficile. On part déjà du principe que il faut tenir compte de quelque chose. Dieu est souverain, mais l'être humain est responsable. Et je crois que si les fils de Salomon avaient pris la décision d'obéir aux anciens, connaissant déjà un peu notre Dieu, je pense que ça n'aurait pas empêché le Seigneur de revenir sur sa décision. Donc, les choses auront pu se passer différemment, oui. Il ne faut pas hésiter quand on connaît la Bible, quand on a lu sa Bible sérieusement. On ne peut pas aller dans l'idée que de déterminer les choses comme ça, dire que de toute façon, comme ça venait du Seigneur, Dieu... Non, Dieu pouvait se repentir. Comprenez bien ces mots-là, repentir. Mais je crois fermement que la repentance aurait pu changer les événements. C'est ma conviction. Hein.
Bonne conviction. C'est... Merci. C'est, ça, ça présente bien le, ce qu'on observe dans la Bible. Quand même, quand Dieu annonce des jugements, la plupart des temps, s'il n'y avait pas un point de non-retour, c'était pour y revenir. Donc, bon, là, il n'y avait pas d'un... Oui, il y avait l'annonce quand même de ce qui allait arriver à Salomon, mais même Salomon, quand Dieu lui a dit son verdict, Salomon, est-ce qu'il n'aurait pas pu dire, non, mais j'ai complètement buggé, il faut que je me repente, et puis Seigneur, non, que ça ne soit pas. Effectivement, ouais, tout à fait. Mais comment les choses auraient pu peut-être se passer autrement si, on est dans l'hypothèse, mais si vous, dans l'Église, vous aviez une situation un peu compliquée, comment on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
S'écouter les uns les autres.
C'est peut-être ce que la sœur.
Écouter, s'écouter, ouais, ça rejoint ça. En fait, c'est. Comment dire, que Roboam puisse, à partir des conseils à la fois des anciens et des jeunes, effectivement, repenser les intérêts, en fait, et prendre une décision qui, en tout cas, inclut les deux conseils et ouais. Bon. Mais il n'y a pas de réponse définitive, ça c'est sûr, quoi. C'est dans l'écoute, au vu du contexte aussi de l'époque, des propositions d'évolution côté jeune et côté ancien, et des propositions justement de garder la manière traditionnelle côté jeune.
Merci. Peut-être une dernière proposition encore. On est effectivement porté vers l'écoute mutuelle, le dialogue. Effectivement, c'est...
On ne dit jamais 203. Alors, il manque un troisième conseiller, ici clairement, qui soit un conseiller spirituel, si possible. Et oui. On se demande où il est.
Oui. Effectivement, on pourrait se poser la question, est-ce que là, il n'y avait pas le rôle de prophète, ou par exemple, ou bien est-ce que, voilà, quelle est aussi la voix de Dieu, comment on cherche là-dedans la volonté de Dieu, parce que là, on dirait que, en tout cas par rapport à Roboam et puis les jeunes, les intérêts sont pas très sanctifiés, disons, c'est, voilà. Merci beaucoup, vous êtes beaucoup plus participatif que ce que je pensais, donc je m'excuse au niveau du temps, c'est cool, donc je vais essayer de ne pas trop allonger. Il y a un élément qui est sorti dans une des réponses, on peut mettre le prochain slide. Au cœur de tout cela, il y a la notion de serviteur. Être serviteur, c'est un maître mot dans cette histoire. D'une part, il est question que le peuple est bien prêt à servir le nouveau roi, c'est ce qu'ils disent les aînés. Le peuple est bien prêt à servir le nouveau roi s'il allège leur lourd fardeau. C'est ce que dit aussi le peuple. Si tu allèges notre fardeau, nous, on va te servir. Bon, les anciens s'étaient tenus au service de Salomon. Ça les qualifie par rapport à leur rôle qu'ils avaient tenu auprès de Salomon. Tout ça, c'est dans le texte. Et puis, leur conseil, c'est si aujourd'hui tu te fais le serviteur du peuple, si tu te mets à leur service, ils seront pour toujours tes serviteurs. Ou dit autrement, tu seras alors un vrai roi serviteur. C'était un peu ça l'objectif. Et on peut rappeler là que les rois en Israël,
n'étaient pas censés être des rois comme les rois des peuples, ils étaient censés être des rois au service de Dieu et donc du peuple, et pas avant tout d'eux-mêmes. Et en même temps, pour Roboam, c'est aussi sorti, les jeunes gens, ils étaient à son service. Donc c'est comme lui qui, comme fils de roi, avait déjà un peu ses serviteurs. Et là se pose aussi la question, quelle était leur tâche, leur responsabilité. Voilà, ça nous pose évidemment la question, qui est-ce que moi je sers? Et ce n'est pas très original, pensons à Salomon, est-ce que c'est avant tout le Seigneur, avec toute sa parole, avec toute son éthique, avec toute la direction du Saint-Esprit? Est-ce que c'est Dieu d'abord? Il y a la question de la tentation de se servir soi-même, la soif de pouvoir de Roboam, mais nous, dans nos motivations, il peut y avoir toutes sortes de raisons aussi qui font qu'on ne cherche pas avant tout de servir. Attention, pas d'être asservi, mais de servir. Servir le prochain, servir Dieu, se servir les uns les autres aussi dans l'Église, par exemple. Et puis ce risque de l'angle mort, servir les copains, parce que c'est dans notre intérêt, parce que c'est tellement normal, et dans un groupe dans l'Église, ça peut être, on commence gentiment à avoir des convictions de plus en plus fortes, parce qu'on est d'accord entre nous, mais nous c'est qui? Quel est l'intérêt plus large, peut-être de l'Église par exemple? Est-ce qu'on est prêt à vraiment être à l'écoute des uns des autres, que ce soit à titre intergénérationnel ou différents groupes d'âge, ou si on a des fonds à répartir dans le budget, comment est-ce qu'on fait cela, etc. Donc des choses très concrètes des fois. Puis après se pose la question, comment est-ce que je sers en fonction de la mission que Dieu m'a confiée? Et là, il s'agit de chercher la perspective large. Dans un premier temps, en tout cas, toujours essayer d'abord d'élargir. C'est un peu compliqué parce que ça complexifie. Et puis après, de dire oui, mais maintenant, en tenant compte d'eux, des uns et des autres, comment est-ce qu'on peut faire les bons choix? Se méfier donc des angles morts qu'on peut avoir. Comment se fait-il que des fois, même dans l'Église, même dans les familles chrétiennes, quelqu'un peut agir d'une manière qui, vu de l'extérieur, semble tellement être à côté, tellement pas chrétienne. Et des fois, dans des églises, comment se fait-il qu'on arrive à des divisions alors que c'est tellement évident qu'il faut qu'on soit unis? Et là, de prendre du recul, d'essayer d'avoir une écoute large, et puis après, de gentiment cheminer dans une bonne direction, à la suite de qui? Alors, pas du roi Roboam, ni de Salomon, ni de Jéroboam qui sera après roi en Israël, mais à la suite du roi serviteur. Et c'est ce que je trouve magnifique dans ce texte, où finalement, derrière ce profil vide, quelqu'un a dit tout à l'heure, où serait la troisième voie? Oui, on perçoit là derrière, enfin moi j'ai trouvé que c'est un beau texte qui pointe finalement vers le vrai roi serviteur qu'est Jésus, vous le savez. C'est pour cela que je vous propose de terminer avec ce texte du Nouveau Testament qui dit en quelques versets ce que c'est quand le roi serviteur est notre modèle et au milieu de nous. Merci Marie de nous lire ce texte. Donc Romains 15, 5 à 7, on peut aussi l'afficher. Il faut avancer de deux slides, je crois.
Que donc Dieu...
Voilà.
Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu.
On peut avancer de deux encore et puis on va rester avec ça. Et je laisse la suite pour la prière.
propose qu'on garde en mémoire tout ce qui a été dit par Thomas. Et ça suscite des questions, des réponses aussi par rapport au témoignage de Manon. Et je vous propose qu'on garde nos prières, nos ressentis. Et pendant nous allons procéder à la Sainte Cène. Et pendant la distribution de la Sainte Cène, alors je vous propose un moment où on peut s'exprimer, soit intérieurement, soit extérieurement. J'aurai le micro, qu'on puisse partager aussi avec ceux qui sont chez eux. Donc je vous proposerai un moment de prière pendant ce temps de distribution. Alors merci de me rejoindre pour la Sainte Cène.
Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous voulons te dire notre reconnaissance de t'être révélé comme roi serviteur, un roi tellement atypique et pourtant le roi de l'univers, le fils du Dieu éternel, toi qui continues à venir vers nous, vers chacun, toi qui nous as appelés un jour à t'appartenir, à te suivre, à suivre sur un chemin qui implique aussi le renoncement à soi-même, à ce que le moi soit sur le trône, comme on le dit souvent, pour trouver notre place à tes pieds. Et c'est encore à tes pieds, Seigneur, que nous pouvons nous réunir pour partager ce repas si simple et en même temps si plein de sens. Merci de nous rappeler le contexte de ce repas et les paroles qu'il institue.
Donc dans Marc 14, 22 à 24, au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez ceci et mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit « Ceci est mon sang, par laquelle est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. » Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit, « Ceci est mon sang, par laquelle est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. »
Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce corps partagé, pour ce sang coulé, pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai, Seigneur, que aussi dans cet exemple de Roboam, l'humilité, j'ai pensé à l'humilité, Seigneur, que nous soyons humbles devant toi aussi et devant nos missions, en étant aussi quelque part roi serviteur, que nous puissions être disponibles pour les autres. Alors Seigneur Jésus, merci pour cet exemple du roi serviteur qui est mort sur la croix et aussi Seigneur pour cette résurrection après qui donne la vie. Alors Seigneur, merci pour ce pain et ce vin et que nous puissions nous rappeler vraiment que pour nos vies, Seigneur, tu t'es sacrifié. Amen. Alors, comme habituellement, vous retrouvez le vin sans alcool au milieu, dans les petits gobelets roses. Et vous pouvez prendre la Sainte Cène directement, sans attendre, sans qu'on soit tous ensemble. Alors je vous propose aussi ce moment d'intercession devant notre Père, que ce soit intérieurement ou que nous puissions le partager dans le cadre de notre famille d'église, enfin dans, nos, dans la famille d'église internationale. Que, et faites-moi signe, comme ça je peux transmettre le micro et ceux qui sont à l'extérieur peuvent aussi nous entendre. Alors je vous propose d'être un moment dans la prière. Oui Seigneur, merci pour ce temps aussi où c'est vrai, nous sommes rassemblés autour de toi. Nous sommes aussi chacun individuellement, Seigneur, mais aussi en groupe, en église, ton épouse. Et Seigneur, nous voulons être reconnaissants de pouvoir partager la scène ensemble, de pouvoir manger ce repas dont tu es l'initiateur. Et Seigneur, nous voulons aussi nous rappeler que, j'ai parlé avant d'humilité, que nous puissions être humbles les uns devant les autres. Et Seigneur, merci aussi parce que tu as donné des dons à chacun que nous pouvons exercer librement. Et Seigneur, aussi que malgré ces dons, Seigneur, ce ne soit pas un sujet d'orgueil, mais vraiment un sujet de service. Alors Seigneur, bénis ce temps aussi de Sainte-Seine et merci aussi pour les paroles que tu nous as transmises ce matin. Et Seigneur, aussi, je pense au pardon. Peut-être le peuple avait besoin de ce pardon, de pouvoir retrouver un lien, de retrouver une relation. Alors Seigneur Jésus, sois aussi présent dans nos relations et qu'elles soient bonnes. Et puis si elles sont mauvaises, Seigneur, que nous puissions cheminer, Seigneur, pour retrouver des relations qui sont saines. Amen.
En prenant ce pain, et ce vin, Seigneur, nous nous faisons sacrificateurs et nous élevons ce que tu as fait pour nous, cet agneau de Dieu donné pour chacun, et nous voulons t'en remercier, et nous regardons à toi. Et toi seul, Seigneur, peux nous aider dans nos rapports, les uns avec les autres, afin qu'ils soient l'image du rapport que tu as avec ton Père. Aide-nous, Seigneur, toi le Dieu de la persévérance, comme il est dit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, à être aussi persévérant, à avoir de la patience. Tout ça, c'est fait partie du fruit de l'esprit, afin que nous puissions ensemble avancer, cheminer, te servir. Amen.
Seigneur, merci pour ces temps merveilleux de la scène où nous savons que tu as tout accompli à la croix, mais nous attendons ton retour. Et nous sommes entre deux et nous avons vraiment, vraiment besoin de toi. Besoin de ton secours, de ta force, de tes conseils. Et nous voulons penser à notre sœur qui travaille au Tchad. Et Seigneur, nous prions pour les autorités de ce pays. C'est un pays qui passe des moments très instables politiquement. Et la mission aussi dépend de ces mouvements dans la politique. Et Seigneur, nous prions que tu puisses bénir notre sœur au Tchad. Parce que tu n'es pas encore revenu, nous sommes encore dans une situation où on a besoin de toi. Alors nous n'avons pas honte de demander d'accomplir plusieurs miracles pour elle là-bas. Parce que ce n'est pas du tout évident pour elle de vivre dans une autre culture et de vivre dans des situations qu'elle pourrait ne pas maîtriser. Mais parce que tu es souverain, parce que la Bible dit que tu es le Dieu qui a accompli des miracles, alors Seigneur, son retour au Tchad, elle puisse expérimenter des miracles et des bénédictions en plus, afin que son travail s'efface avec joie. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Est-ce que quelqu'un voudrait prendre encore voix pour prier avec la communauté ? Je vous propose qu'on conclue ce moment de Sainte-Cène et de prière par le Notre Père. Je vous demanderai peut-être de vous lever. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors peut-être un temps des annonces. Merci à Joanne de me rejoindre. J'aimerais aussi peut-être signaler que donc vendredi soir nous avons eu le concert Esdras d'Adonia, du groupe Adonia, et c'était vraiment merveilleux. Et je crois que le Seigneur nous a parlé aussi au travers de ce concert, au travers de tous ces jeunes, de ces 70 jeunes sur scène au centre œcuménique. Je crois que c'était un moment très béni et très 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 chouette. Donc merci aussi à vous, à toute l'Église qui s'est investie, soit par la prière, soit par d'autres façons, par l'hébergement aussi. Je crois que c'est une expérience très, très positive. Et je crois que c'est aussi un retour auprès des jeunes. En tout cas, les retours que j'ai eus d'Adonia par rapport à Mérin étaient très positifs. Donc un grand merci et que le Seigneur vous bénisse.
Merci. Bonjour. Alors, pour les annonces, je profite du thème un peu pour vous parler du service. C'est une bonne chose. Comme ça, on reste sur le même thème. Vous êtes mêlés dedans. Le service, ce n'est pas que pour un roi qui se met au service d'eux. C'est chacun de nous qui nous mettons au service des autres. Et cette Église, elle vit grâce à tous les services que vous y faites, que vous rendez. Que ça soit pour la technique, au fond, que ça soit pour ceux qui font la louange, pour la préparation le matin, mais aussi pour le nettoyage. Et on a besoin de renforcer certains groupes pour les nettoyages. Donc n'hésitez pas à revenir vers Claire Lisserex ou directement vers moi, le conseil ou les pasteurs, pour si vous avez envie de vous investir pour un service, quel qu'il soit, mais surtout le nettoyage. Pour venir renforcer les équipes, c'est des moments de convivialité où on peut aussi apprendre à connaître les autres. Donc c'est pas simplement rendre service pour le nettoyage pour que ça soit propre, mais aussi apprendre à se connaître, que ça soit pour le nettoyage, mais aussi par exemple le café qu'on aura après le culte. Ce moment-là, c'est des moments où il y a des personnes qui sont là pour se mettre au service, pour qu'on puisse avoir ce moment de convivialité. Donc merci de votre investissement. Et puis là, il n'y a pas beaucoup besoin d'avoir beaucoup de dons, sauf si vous avez deux mains gauches comme Esdras, ce qu'on a vu vendredi. Ensuite, pour cette semaine, le groupe CTT, mercredi, à 20h. Donc c'est les jeunes de 15 à 25 ans. Et puis, dimanche prochain, ce sera un culte avec Philippe Burry, du service de mission et d'entraide de la FRE.
C'est Sylvie Balvin.
D'accord. Sylvie.
Il a un empêchement et un remplacement par Sylvie Balvin pour connaître les jeunes lui ici.
Mais ça reste du service du SME.
Bon.
Très bien. Ok. Et puis pour ceux qui participent à l'atelier pour les 60 ans, puisque l'Église aura 60 ans de présence ici à Mérin, Michaela nous a invités à rester pour 12h30. Donc il y aura un petit repas, sauf erreur, de quelques restes de vendredi que nous pourrons partager pour qu'on puisse organiser ces 60 ans.
Oui, oubliez, certainement sans le vouloir, l'étude biblique, l'atelier biblique de mardi.
Alors, oui, j'ai oublié, parce que je dois avouer que je ne me suis pas préparé en rentrant de vacances. Effectivement, l'atelier biblique ce mardi. C'est toi qui... Voilà, donc c'est important, voilà. C'est un atelier biblique. Alors, mais c'est intéressant parce qu'on en a beaucoup discuté avec les pasteurs pour ces ateliers. Donc, c'est une grande série orientée sur l'Église et qu'on a voulu aussi participatif comme ce matin, c'est-à-dire que aussi des membres de l'Église puissent apporter une connaissance sur l'histoire ou sur le fonctionnement de l'Église, notamment à Mérin. Et donc, ce mardi...
Ça, c'est le réveil. C'est vrai que ça rafraîchit ma mémoire et c'est vrai que c'est vraiment intéressant de savoir d'où l'on vient et pourquoi on est là.
Oui.
Afin qu'on puisse aller servir plus loin.
Ben, ça reprend toute l'histoire qu'on a vue ce matin, de toujours faire un état des lieux du passé pour repartir sur de bonnes bases. Et puis, je profite aussi de vous dire que l'Église fonctionne grâce à vos dons et puis que vous pouvez exercer votre générosité soit par Twin, soit par inversement sur le compte, soit par, sur le petit, dans le petit panier qui est à la sortie. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il vous a dit aussi qu'il y a un petit café après, à la sortie ? Ok. Moi, je vous propose, on a parlé des jeunes, des vieux, des conseils. On avait envie quand même de... Alors, c'est vrai que le temps passe pour les enfants. C'est pour ça que j'étais un peu les chercher, voir s'ils revenaient avec nous, pour chanter un dernier chant qui s'appelle « Jeunes et vieux ». Donc, on peut chanter ensemble, on peut louer ensemble. Et je crois que c'est la conclusion qu'on veut par rapport aussi au message. Et merci à Thomas de nous l'avoir amené. Je vous propose de rester debout et Thomas va nous lancer dans la semaine. Merci.
Oula, j'ai du travail là. Non. Vous l'avez déjà entendu, je vais rappeler la bénédiction plutôt, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notamment en chantant « Jeunes et vieux », et peut-être la prochaine fois même que vous danseriez encore un peu plus. Accueillez-vous donc les uns les autres, ceux qui dansent pas, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Bon dimanche à tous. Soyez bénis. Merci.